L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec Mille et Une Vie Habitat, Omelior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes en direct du Salon des maires d'Île-de-France, édition 2023. Il est pas loin de 10h43, on est ravis d'être avec vous. Et on va parler de sujets bien sûr qui nous touchent, les sujets de la ville, le sujet de la fabrique du territoire plus largement. Et pour cette table ronde thématique justement, on va recevoir sur le plateau Éric Dubertrand, directeur interrégional de CDC Habitat pour l'Île-de-France. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir, l'immense plaisir de retrouver sur le plateau Aude Debreuil. Salut Aude.
Bonjour Sylvain.
Aude, présidente du directoire de Grand Paris Habitat pour CDC Habitat. Merci d'être avec nous. Cette table ronde, elle a pour but de s'interroger, de se poser les bonnes questions sur l'état de crise dans lequel se trouve le secteur du logement. On le sait, le logement, c'est un peu le parent pauvre des structures publiques, des structures peut-être politiques. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le nombre d'autorisations de permis de construire, d'urbanisme, indépendamment d'une démographie galopante, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Dans ce contexte, le bailleur social que vous représentez, le bailleur tout court, j'allais dire, parce qu'on fait du logement avant tout. C'est Anne-Sophie Graff qui me disait, j'aimerais qu'on parle d'abord de logement, et avant de parler de logement social intermédiaire, mais le logement. Vous avez annoncé début mai la commande de 17 000 logements, dont 5 000 sociaux, 12 000 logements intermédiaires, afin de répondre aux besoins de logement en France, alors que la baisse des constructions neuves pèse sur le mal logement. L'idée, bien évidemment, c'est de développer toute la thématique de cette table ronde autour de ces sujets, sans éluder aucune question, aucun discours, pour essayer d'y voir clair, de vous donner aussi, les amis, des clés de lisibilité. C'est parti pour la table ronde.
L'AMIF 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Aude Debreuil, je suis ravi de vous revoir sur le plateau. Un vrai plaisir, puisque vous êtes une immense professionnelle. J'ai le plaisir de vous rencontrer à peu près deux fois par an dans les grands événements nationaux et internationaux. J'aimerais que vous nous recontextualisez, si vous voulez bien, le rôle, la mission que vous avez au sein de CDC Habitat pour justement le Grand Paris Habitat que vous représentez aujourd'hui.
Oui, merci Sylvain. En fait, CDC Habitat en Île-de-France a une organisation particulière compte tenu de l'ampleur de son parc et de l'ampleur des enjeux et de l'ambition de développement. Et donc, nous sommes organisés avec deux structures. Le bailleur, qui est incarné par Éric Dubertrand, la direction interrégionale Île-de-France, et puis une autre structure que j'ai la chance de présider et qui est en charge du développement et de la maîtrise d'ouvrage en Île-de-France. Et la seconde particularité, c'est que cette structure, qui est un GIE, travaille également pour des adhérents hors du groupe de CDC Habitat, puisque nous avons une vingtaine d'adhérents qui sont des offices départementaux, intercommunaux, des SEM, les CROUS, voilà, un certain nombre de structures qui s'appuient sur les compétences de maîtrise d'ouvrage de GPH.
C'est un formidable outil d'accompagnement, bien évidemment, Éric. Vous qui maîtrisez, justement, puisque vous pilotez l'Île-de-France, ça veut dire que vous pilotez un cinquième du territoire français en démographie.
Oui, un cinquième du territoire français. Et surtout pour
De la démographie, parce que 16 départements, oui. Ça représente, je crois, 17 millions d'habitants.
Nous, on est sur l'Île-de-France. Donc l'Île-de-France, c'est 8 départements, c'est 12,5 millions d'habitants, ce qui est déjà pas mal, mais c'est plus de 30% du PIB de la France. Et puis c'est surtout un quart des... Si on ne prend que les logements sociaux, dits familiaux, c'est un quart des logements sociaux en France, qui sont concentrés en Île-de-France. Voilà. Et puis avec un patrimoine de CDC Habitat, Aude le rappelait, qui est très important en Île-de-France, puisque c'est un cinquième du groupe concentré en Île-de-France. C'est 140 000 logements plus 35 000 logements d'Adoma. Et donc il y a un véritable enjeu pour nous parce que nous sommes un acteur reconnu, un acteur important, qui avons changé de nom, je le rappelle, en 2018. Hein, on était l'ancienne SNI, passé CDC Habitat.
Et bien sûr.
Et du coup, qui nous confère forcément un rôle différent et d'intérêt public, puisqu'on est la filiale de la Caisse.
Alors, il n'a échappé à personne, Aude et Eric, qu'on va dire que la production de logements neufs est un peu en panne dans le pays, on peut le dire. Hein, c'est pas du tout un constat négatif, c'est-à-dire ou polémique. Un ralentissement important qui représente un investissement justement que vous avez mis en place, un investissement de plus de 3 milliards d'euros, dont 500 millions d'euros apportés par CDC pour justement soutenir la production de logements, nonobstant le fait qu'on soit vraiment en période de crise. Au-delà des chiffres CDC Habitat, vous entendez nouer de véritables liens avec les élus et les décideurs. Vous êtes d'ailleurs l'un des interlocuteurs majeurs avec les élus dans les territoires pour répondre à ces nouveaux enjeux, les enjeux humains, démographiques, de besoin de logement, mais aussi les enjeux de transition environnementale et énergétique. Et d'ailleurs, CDC Habitat est un excellent élève de la transition énergétique, puisque dans le parc, on avait identifié le volume des étiquettes, vous savez, sur les 7 lettres énergétiques, étiquettes, vous êtes plutôt très bien noté, et vous avez même fait mieux que ça, puisque vous avez anticipé la législation en entamant déjà un vaste processus de rénovation du parc bâti. Bien que vous avez encore des enjeux, puisque 60% de votre parc est encore accordé au gaz, et que vous avez aussi des enjeux aussi sur les énergies, et je pense que vous êtes très bien engagé. C'est comme ça que je voudrais que l'on puisse interpréter, si vous voulez bien, de concilier justement ces enjeux environnementaux, notamment sur le zéro artificialisation net, dont certains d'ailleurs ne retiennent que le zéro, et bien sûr le besoin impératif du besoin de logement des Français. Donc Eric, vous étiez venu l'an passé, vous vous rappelez, nous parler de votre stratégie de projet de territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire, faire un point d'étape sur cette stratégie aujourd'hui?
Un point d'étape. Enfin, le projet de territoire, c'est vrai que nous étions venus l'année dernière, notamment pour évoquer ce sujet qui est un sujet important pour nous, puisque c'est en fait la feuille de route qui est la déclinaison territoriale du projet d'entreprise voulu par Anne-Sophie Grave, et qui trace sur les 3 prochaines années à la fois les objectifs, notre ambition forte pour répondre aux enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociaux, urbains, et qui se décline sur chacun des territoires sur lesquels nous sommes présents ou sur lesquels nous souhaitons nous renforcer. Donc c'est pour nous un enjeu très fort. On a mobilisé l'ensemble des équipes, on a depuis travaillé sur un certain nombre de chantiers, et puis on a rencontré 8 agglomérations, puisque ce travail-là se faisait à l'échelle de l'agglomération, en Île-de-France, et poursuivait des objectifs d'accompagnement des collectivités, notamment sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on est à la phase d'actualisation, Aude le sait bien, puisqu'on y travaille ensemble.
Alors justement, pour vous, l'idée, elle est très simple, c'est de travailler main en main, main dans la main avec les élus, vous êtes vraiment l'allié objectif des élus. Est-ce que justement, dans cette stratégie de co-construction, comment vous l'imaginez? J'aimerais vous ayez chacun la parole là-dessus, parce que on est sur des partenariats avec la puissance publique, on est sur des environnements qui sont des environnements éminemment politiques au niveau local. Comment vous travaillez ce schéma de co-construction, justement, Eric?
Si vous voulez, le projet de territoire n'a de sens que si à un moment donné, nos ambitions, nos objectifs, il doit être confronté à la réalité de terrain, et notamment aux besoins et émergents des territoires, qui sont notamment incarnés par les élus et la volonté politique. Les projets politiques territoriaux, c'est quand même sur lequel on s'appuie. Et donc, la nécessité, aujourd'hui, une fois élaboré en interne et le positionnement calé, c'est justement de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des élus, et notamment, je le disais, les présidents d'agglomération, qui, par leur mission, leurs compétences, sont des acteurs importants de l'aménagement, de l'urbanisme, mais aussi du logement tout court, avec notamment les attributions. Eh bien, ça nous paraissait important de le faire. Donc, aujourd'hui, on est dans cette phase de dialogue, où on vérifie territoire par territoire justement si les objectifs 1 que l'on poursuit correspondent aux besoins du territoire, 2 si grâce notamment aussi aux documents d'urbanisme qui sont votés à cette échelle-là, si on est bien en phase et si on peut accompagner le territoire sur les prochaines années, que ce soit en développement mais aussi aussi, que ce soit en gestion, que ce soit sur des sujets de sûreté, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, CDC Habitat, qui est un opérateur global de l'habitat et du logement, s'inscrit dans un accompagnement des territoires de façon globale. Et donc, bien sûr, sur notre cœur de métier, qui est quand même de pouvoir loger correctement et sur toute la chaîne des Franciliens, mais c'est aussi de s'inscrire dans des politiques publiques locales, et donc, ça veut dire de les accompagner ou, dans le meilleur des cas, d'y contribuer. Et donc, pour nous, c'est très important d'avoir ce dialogue-là.
C'est très clair. Aude ?
Pas grand-chose à ajouter. Nous sommes très en phase et nous partageons ce travail. Mais ce qui est intéressant, c'est justement c'est de mêler, si vous voulez, l'ensemble de nos métiers. Et donc aussi bien la gestion locative, la gestion patrimoniale, les ambitions de développement de notre côté, d'avoir une approche unifiée de ces différentes thématiques, de ces différents métiers, et de les croiser avec les ambitions des collectivités, et d'apporter également notre ingénierie en matière d'engagements sociétaux, environnementaux, au service des territoires.
C'est une puissance de tir phénoménale. Et je m'étonne d'ailleurs parfois des difficultés ou des résistances que l'on peut trouver. Parce que vous parlez de dialogue, hein, Eric, c'est extrêmement important. Mais entre des élus qui sont très réticents à l'idée des nouvelles constructions, on le sait. Voilà. Vous savez, c'est on appelle ça la méthode Puma, pour mais ailleurs. Hein, voilà. On est tous pour mais ailleurs. Souvent, nouvelles constructions qui sont non financées. Il faut aussi comprendre l'élu, hein, qui a vu baisser ses dotations. Pour se mettre un peu à sa place, qui a vu, bien évidemment, je ne vais pas reparler de la taxe d'habitation, mais voilà, les sujets qui sont liés à des transferts de compétences au niveau des collectivités locales, sans y associer les recettes. Une inflation normative, alors moi ça fait 35 ans que je suis dans ce métier, j'ai jamais connu ça.
Ouais.
À la fois une conjonction d'événements, on va dire, structurels, conjoncturels, une espèce de crise multifactorielle que j'ai rarement vue. Ensuite, vous avez une conséquence qui est terrible, qui est celle de l'injonction qui est faite à l'élu. Le vendredi, il reçoit des personnes parce qu'ils ont besoin d'un logement, et le lundi, on a les mêmes personnes qui disent « Moi, je veux pas d'une grue dans la rue d'en face parce qu'il ne faut pas construire. » Donc, ces contradictions dans la gestion d'une population ne sont pas évidentes au niveau des élus. Pour vous, CDC Habitat, les choses sont un peu différentes parce que, grâce à la commande publique, néanmoins, vous arrivez quand même à naviguer dans cette inflation normative. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots, sans éluder la question. C'est-à-dire qu'on sait que ça pèse. On n'est pas contre le fait, par exemple, qu'on soit sur une meilleure concentration de l'empattement urbain pour réinviter la nature en ville. On est tous d'accord qu'on aimerait avoir des îlots de fraîcheur. On est tous d'accord sur lequel on aimerait, par exemple, avoir plus d'espace, plus de perspectives. Mais néanmoins, on a quand même une démographie importante à gérer. Comment vous arrivez à jongler entre cette inflation normative qui vous est enjointe, que vous d'ailleurs vous anticipez souvent, et ce rapport aux élus qui est compliqué par quoi ?
C'est un sujet comme vous, enfin, tel que vous décrivez, assez forcément compliqué. Ça impose plusieurs choses. La première, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'être vraiment un acteur de proximité qui noue des relations avec le territoire et notamment avec les élus. Et donc ça veut dire que ça nécessite quoi ? Ça nécessite de bien comprendre. Justement ce que vous disiez, ça veut dire quelles sont finalement les contraintes d'une collectivité, d'un élu. Aujourd'hui, on sait que la collectivité locale a des contraintes financières, hein, ses marges de manœuvre sont plus limitées, sa capacité à agir sur les différents leviers fiscaux sont aussi limitées. Et puis en même temps, il est porteur à la fois d'un projet politique qui est territorialisé, qui doit accompagner sa population pour notamment l'accompagner au quotidien et sur la question du logement, c'est essentiel. Et puis en même temps, être sollicité en permanence par un certain nombre de demandes individuelles. Donc ça veut dire que c'est traduire finalement les aspirations individuelles en projet collectif et de le porter correctement. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc ça veut dire que nous, c'est vrai qu'on a fait le choix, notamment à travers ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire notre action territorialisée, c'est de pouvoir être vraiment vraiment à l'écoute et de bien comprendre évidemment quels sont les besoins et aussi le contexte local dans lequel on se situe. Et puis, de l'autre côté, c'est d'être en capacité d'apporter du service, d'apporter une expertise, d'apporter une plus-value. Et c'est là l'ensemble, c'est ce que disait Aude, c'est l'ensemble des finalement des métiers, de la palette des métiers que nous avons, qui nous permet d'une certaine manière d'être un ensemblier. Ça veut dire d'être, on se dit souvent ça à la caisse, mais CDC Habitat l'incarne assez bien. Ça veut dire en fait, aujourd'hui, on est capable à la fois de pouvoir accompagner des élus sur un projet d'aménagement, que sur un projet d'acquisition-amélioration dans un centre-ville, que de pouvoir justement aussi sur les questions de biodiversité apporter une expertise aussi et de répondre sur cette dimension-là à des appels à projets et donc de pouvoir rentrer aussi sur ces sujets-là de manière très professionnelle et avec un sens voilà, de l'anticipation. Donc on a cette, aujourd'hui cette capacité-là à agir, à proposer, à solutionner. Et je pense qu'en effet, c'est un positionnement difficile, hein, parce que ça, c'est exigeant. On nous sollicite aujourd'hui sur tout un tas de sujets, que ce soit sur des sujets comme les copros dégradés, mais aussi sur de l'achat en diffus dans du centre ancien. Vous voyez, donc on nous sollicite sur tout un tas de sujets aujourd'hui.
Des problématiques qui sont des problématiques protéiformes, hein, finalement, parce que aujourd'hui, on est face à une question qui, à mon avis, a pris une dimension absolument incroyable. C'est, on se dit qu'il n'y a pas de foncier pour loger, qu'il n'y a pas de foncier pour construire, mais il y a aussi beaucoup de bâtiments obsolètes, de bâtiments à reconvertir. On fait appel à CDC Habitat, justement, dans le plan d'action cœur de ville, dans la revitalisation des cœurs de ville dans lesquels il y a des empreintes foncières qui nous permettent, effectivement, de trouver des solutions alternatives. Par de la mixité d'usage, par de la mixité fonctionnelle. Quand on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de débat, et que d'ailleurs le dernier rapport du GIEC a été assez éloquent, hein, moi quand j'ai lu les deux premières pages, je me suis dit c'est bon, on est cuit. Non mais on se dit que c'est compliqué et que l'émission de gaz à effet de serre dans le bâtiment, c'est encore un énorme sujet, et pourtant il y a un travail de fond qui a été fait. Ce sont des modes constructifs nouveaux. C'est une nouvelle façon de penser la construction. Alors justement,
Sylvain, j'aurais voulu compléter un petit peu le propos qu'a pu tenir Eric par rapport à la question de comment vous articulez avec les élus. Je crois aussi que par l'ingénierie que nous avons développée, on apporte vraiment un service. Je pense à un sujet particulier qui sont notamment les projets de renouvellement urbain de grande ampleur, projets de l'ANRU. Les équipes de GPH en pilotent aujourd'hui 19. C'est absolument considérable en Île-de-France. 15 pour le groupe, 4 pour des adhérents hors groupe CDC Habitat. Et honnêtement, on apporte une assistance aux élus. Il y a des élus qui nous disent, mais comment on aurait fait sans vous ?
Ah, c'est clair.
Et il y a des enjeux absolument considérables de relogement, d'une part, de reconstitution d'offres, d'autre part. Et du coup, les élus comprennent bien qu'on est dans un système, j'ai envie de dire presque un peu donnant-donnant, c'est-à-dire que pour que nous soyons en mesure de véritablement bien conduire les projets qu'ils souhaitent nous confier, eh bien, il faut effectivement que l'on recrée de l'air avec de l'offre nouvelle et que par conséquent, même si eux-mêmes sont soumis à ces injonctions contradictoires, s'ils ont effectivement des attentes très ambivalentes de la part de leurs habitants, eh bien, ils sont bien conscients que pour faire avancer ces projets qui sont absolument indispensables à la survie de certains territoire, et ben il faudra accepter un peu de construire, un peu plus, de construire différemment.
Et vous arrivez à faire passer le message ?
Ben, c'est absolument incontournable.
Oui.
Parce que là, aujourd'hui il y a un côté un peu schizophrène parmi les élus, d'ailleurs.
Là, j'ai pris l'exemple des projets en rue, par exemple.
Oui. La nécessité. Alors, justement, dans les projets en rue, est-ce que vous êtes parfois considéré, je vais utiliser le terme, un peu comme des financeurs à chaque fois, qui venaient finalement compléter ? Mais aussi parce que vous avez une palette de services qui est tellement énorme, est-ce que vous avez l'impression que les élus ont bien vu le spectre de fonctionnement?
Je pense qu'ils ont bien vu l'expertise technique.
Oui, d'accord. Oui.
La capacité vraiment,
il y a plus de débat,
aussi bien de dialoguer avec eux, de les aider à élaborer le projet et surtout de le mettre en œuvre. Parce que si vous voulez, on n'est pas là pour faire la xème étude qui va garnir des étagères, mais on est là pour faire.
Bien sûr.
Et les projets sont conduits techniquement.
On va passer à la deuxième partie de cette émission, puisqu'on va parler du plan de logement de soutien de CDC Habitat, un vaste programme extrêmement important, surtout important pour les Français, tout de suite après ça.
La MIF 2023 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Le plan de soutien de logements pilotés par CDC Habitat, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grands chiffres? Éric Dubertrand, vous vous lancez pleinement dans ce plan de soutien. 17 000 logements en VFA.
17 000 logements en VFA. Alors, Aude précisera les choses, mais
c'est énorme.
Mais c'est vrai que, en fait, on est dans un contexte, forcément, vous l'avez rappelé tout à l'heure, très, très compliqué pour le logement. Un peu moins de 200 000 logements qui ont démarré, mis en chantier depuis le début de l'année. Donc ça veut dire le niveau le plus bas depuis 2016. Et puis, sans compter quand on regarde de plus près les chiffres et quand on regarde sur le logement social, c'est même encore plus dégradé comme situation. Donc ça veut dire qu'on voit bien, alors tout ça est dû bien sûr à des causes structurelles, et puis est venu s'ajouter les crises géopolitiques, énergétiques, qui du coup à la fin on rend le contexte compliqué en termes de coûts de construction, d'accession au crédit avec des taux à plus de 4%. Donc on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué, notamment parce qu'on a beaucoup de relations avec les promoteurs. On le voit bien, les promoteurs aujourd'hui ont du mal à vendre tout simplement une bonne partie des logements qui sont prévus, et donc ça veut dire qu'en fait se tourne vers nous. Alors, petite précision.
Elisabeth Borne avait donc indiqué que 49 000 logements seraient achetés par
49 000 17 000 par CDC Habitat.
Pardon, 17 000.
Voilà,
c'est oui, pardon.
Hein, 17 000, ce qui est déjà quand même bien. Et là, on est sur un plan de soutien.
Pardon, vous avez
on est sur un plan de soutien, ce qui nous différencie de 2020 où on était sur un plan de relance. Donc là, on est sur un plan de soutien à plan de soutien au logement, plan de soutien à la construction, plan de soutien à l'ensemble de la filière qui, évidemment, en termes d'emploi, parce qu'il y a aussi la question de l'emploi derrière. Donc on répond à la fois quand même à une nécessité, c'est de soutenir le besoin de logement sur le territoire et notamment francilien. Et puis, évidemment, la nécessité de soutenir toute la filière économique et l'emploi qui risque d'être en difficulté dans ce contexte-là. Voilà.
Alors, un mot peut-être là-dessus.
Oui, c'est un plan qui est vraiment tourné vers la production de logements, là où la demande est la plus forte, donc prioritairement en zone tendue.
D'accord.
Donc sur ces 17 000 logements France entière, aujourd'hui, c'est 45-50% qui devraient être consacrés à l'Île-de-France.
D'accord. 12 000 logements en location locative
intermédiaire. Et 5 000 logements en locatif sociaux.
Voilà, qu'on dit sociaux. Là, juste pour quelques mots de langage, pour expliquer à ceux qui ne savent pas la différence. Qu'est-ce que le logement intermédiaire par rapport à un logement social?
Les
gens ne font pas tout à fait la
différence. Oui, le logement intermédiaire n'a pas les mêmes plafonds de ressources, donc il n'accueille pas la même population. Et donc, c'est un loyer qui est décoté par rapport au marché de 10-15%, et donc qui est réservé aux zones tendues, là où les loyers sont les plus élevés. Mais ça n'est pas du tout la même logique d'occupation, de droit à rester dans les lieux. Voilà, c'est un bail classique qu'on a comme occupant d'un logement intermédiaire.
Alors, de la part des pouvoirs publics, bien évidemment, c'est un soutien au logement et à la production de logements. C'est une opération qu'on peut qualifier véritablement d'ambitieuse.
Dans les conditions financières actuelles, c'est aussi des conditions qui se sont dégradées pour CDC Habitat.
Voilà.
C'est-à-dire que la hausse des teintes d'intérêt, la hausse du livret A, la hausse du livret A, nous la prenons de plein fouet,
comme
tout le monde. Mm-hmm. Nous finançons aussi par recours à l'emprunt. Donc la hausse des taux d'intérêt, nous la subissons comme tout le monde. Par conséquent, et en plus, nous avons une très forte ambition environnementale. Puisque les objectifs que l'on s'est fixés, c'est que au moins un quart des logements qui seront acquis soient à l'échelon 25 de la RE 2020.
C'est très important ce que vous dites.
Donc on va être sélectif.
Ça remet les choses un petit peu, ça remet les pendules à l'heure. Mais qui est à la manœuvre dans ce vaste projet? Donc il y a Grand Paris Habitat.
Alors nous sommes en première ligne pour examiner toutes les offres d'achat que nous adressent les promoteurs.
Ah oui.
Pour les regarder par rapport au marché, par rapport aux conditions techniques, puisque CDC Habitat a des exigences quant aux prestations techniques qui sont attendues des logements, et évidemment ce que les promoteurs nous proposent d'acheter.
C'est ce qu'on appelle de la vente en bloc, on est d'accord.
Oui, c'est de la vente en bloc, et donc ce qu'ils nous proposent d'acheter, il faut que ce soit conforme à nos standards. Et puis la première chose qu'on examine, c'est le marché, c'est-à-dire que est-ce que les logements qui nous sont proposés correspondent véritablement à, sont bien dans un secteur où la demande est forte. Et donc systématiquement, mes collaborateurs interrogent les équipes d'Eric, les directeurs d'agence pour avoir la lecture du marché local, pour savoir si véritablement les projets qui sont proposés, les loyers qui pourraient être offerts sur ces produits correspondent véritablement à la réalité des marchés et donc aux besoins.
Vous avez une dimension ultra opérationnel, Eric, hein,
oui.
Au niveau du pilotage des opérations.
Oui.
Parmi vos équipes à Paris,
Oui,
vous êtes au taquet. Hein,
on est au taquet, oui.
C'est
oui,
clair,
oui.
Hein.
L'ensemble des équipes de CDC Habitat Île-de-France, d'ailleurs, sont au taquet sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il y a un enjeu, on l'a bien dit, hein, un enjeu très important. On est attendu. En plus, l'idée, c'est de faire les choses avec sérieux, avec rigueur, mais aussi, comme le disait Aude, de pouvoir répondre à des exigences qui sont les nôtres, d'intérêt public, environnemental, de réponse aux besoins, en effet, du marché, donc de pouvoir justement compléter l'offre de logements territorialisés. Donc ça veut dire que ça, c'est très important. Et donc ça veut dire que les équipes sont attaquées parce que les délais sont toujours ce qu'ils sont. Hein. Ça veut dire qu'il faut quelques semaines pour instruire un dossier, il faut pouvoir boucler les opérations assez dans un temps qui est quand même assez, assez court. Donc ça veut dire que voilà. Mais on peut compter sur la grande expertise de nos équipes. Hein.
Alors justement... ambition carbone, on en parlait tout à l'heure, trajectoire, clairement. On est sur véritablement un vrai projet, qui est un projet global d'ailleurs dans l'industrie de la ville et de la fabrique de la ville, qui est d'aller vers la trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Votre ambition carbone et environnementale, Aude Beaubray ?
Elle s'inscrit complètement dans l'ambition de la Caisse des dépôts, hein, puisque nous sommes une filiale à 100% du groupe CDC, qui donc retient la trajectoire plus 1,5 degrés. Et donc, nous nous sommes fixés un objectif qui est d'atteindre, pour y parvenir, notre contribution, c'est d'atteindre un niveau carbone de 15 kg par mètre carré, de 15 kg de CO2 par mètre carré d'habitat en 2030. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt à 23. Et donc, nous voyons la marche qui est à monter pour réduire ce poids carbone.
C'est un signe très encourageant, hein, quand même. Vous êtes une démarche très, très proactive.
Oui. Alors, comme vous le disiez au début, elle a commencé dès 2008 avec une action très volontariste du groupe, pour, notamment à travers les réhabilitations, pour justement améliorer les conditions de vie de nos locataires. Parce qu'au final, on a bien sûr cet objectif de décarbonation de notre patrimoine et donc de pouvoir atteindre les 15 kg par an et par mètre carré. Mais aussi, ça a un impact très concret sur nos locataires, parce qu'il ne faut jamais oublier quand même in fine le client final, qui est quand même le locataire, qui lui et c'est normal exige de nous de pouvoir justement réduire sa facture, pouvoir avoir un logement durable et donc entretenu, et donc c'est notre responsabilité. Donc aujourd'hui on est très volontariste depuis 2008, ça s'accélère aujourd'hui évidemment avec les...
Depuis 2008, c'était surtout de la sobriété énergétique.
C'était de la sobriété.
Et maintenant, on arrive à de l'énergie décarbonée.
Exactement.
C'est l'étape d'après.
C'est ça. Ça veut dire qu'on avait les deux, ce qu'on appelle en interne, les deux jambes. Hein. Ça veut dire on maîtrisait notre...
Il y a aussi le pilotage de la transformation de votre parc.
Oui, exactement.
Pour le raccorder, effectivement, sur des sources d'énergie.
C'est ça.
On parlait du gaz tout à l'heure.
C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, on agit sur plusieurs leviers.
Oui.
On a 140 000 logements, hein, quand même, en Île-de-France. Donc, alors, ils ne sont pas tous dans la même situation. Hein, Mais du coup, on agit à la fois sur l'entretien du parc, donc réhabilitation quand on va jusqu'aux entretiens plus lourds, mais aussi sur les livraisons. On en parlait avec Aude. Et donc, ça veut dire sur l'offre nouvelle, mais aussi sur les raccords. Raccordement au réseau de chaleur. On a travaillé à une cartographie qui nous permet aujourd'hui, assez rapidement d'ailleurs, de raccorder 13 000 logements à des réseaux de chaleur, et donc de faire aussi baisser cette deuxième jambe là dont on parlait, c'est-à-dire la décarbonation et donc de pouvoir atteindre les 15 kilos, parce que les 15 kilos, c'est une conjonction de plusieurs leviers. Hein. Et puis, les sujets, évidemment, de rotation de patrimoine.
15 kilos au mètre carré de 1962, sachant que vous êtes actuellement à 23 kilos, un objectif extrêmement, justement, ambitieux. On a parlé des nouvelles énergies auxquelles vous allez avoir recours. Est-ce qu'on peut savoir? Bon, clairement, le gaz est condamné, on est d'accord, à terme.
Aujourd'hui, oui.
Oui. C'est... Non, mais je veux dire, voilà, le gaz est condamné. Vous avez 60% de votre parc qui est encore accordé au gaz. Oui. Donc, il y a une vaste transformation. Quelles sont les énergies Audebray que vous allez utiliser?
C'est quoi? Je pense qu'on utilise tout ce qu'on peut trouver, selon les livres. En fait, c'est par site, la géothermie. Oui.
Les pompes à chaleur.
Absolument, oui. Les pompes à chaleur, on l'utilise déjà, oui. Absolument. Oui. C'est présent de plus en plus sur des projets. Mais si vous voulez, aujourd'hui, très clairement, la consommation énergétique et au mètre carré et le poids carbone sont vraiment deux critères qui rentrent dans le choix des nouveaux programmes, systématiquement, qui sont expertisés et que nous devons soumettre à notre comité d'engagement et qui sont soumis à la gouvernance.
C'est des coûts, pardonnez-moi, mais c'est des coûts quand même très élevés de transformation.
Ce sont des réhabilitations qui
Quels
vont
Quels en sont
chiffrer.
Les impacts pour les locataires et... Comment ça se finance?
Non, mais alors, c'est deux choses différentes. Mm. Ça veut dire qu'en fait, il y a la question du financement et puis il y a l'impact sur les locataires. La question du financement, on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, on sait bien que qu'atteindre ces objectifs-là, ça va demander un effort supplémentaire. Donc ça veut dire forcément un investissement supérieur de plusieurs à l'échelle de CDC Habitat en Île-de-France, c'est plusieurs centaines de millions d'euros.
C'est clair.
Mais d'abord, ça s'étale dans le temps. Il y a des priorisations. Il y a aussi des nouveaux prêts et des prêts. Je pense qu'on en discutait hier encore. On avait un séminaire auquel participait la Caisse des dépôts, enfin l'établissement public. Et donc, ils nous faisaient état de leur fameux éco-prêt qu'on utilise beaucoup en réhabilitation, qui va s'étendre à 30 ans, des conditions plus favorables, avec un financement à 30 000 euros par logement. Eux-mêmes sont évidemment nous accompagnent beaucoup dans cette transformation. Et puis sur les locataires, on sait bien que l'impact recherché, c'est justement un des économies d'énergie quand même. Hein, voilà, donc ça veut dire une maîtrise de la facture et notamment des charges. Et c'est vraiment l'engagement que l'on prend parce que c'est important pour nos locataires.
Finalement, l'impact locataire, c'est l'amélioration de son pouvoir d'achat, indépendamment du fait qu'il va avoir un meilleur confort d'hiver.
Ouais.
Et un meilleur confort d'été.
Ouais, c'est l'amélioration de ses conditions de vie.
Oui.
Parce que ça, c'est important. Et puis ensuite, avec un impact financier, évidemment.
Non négligeable.
Justement. Après ça, sur le financement, si vous voulez, la présidente s'exprimait justement hier en disant, voilà, on a une responsabilité contracyclique de par l'importance de CDC Habitat, par notre appartenance au groupe Caisse des dépôts, de continuer à investir, même dans une période où la conjoncture est très difficile, même dans une période où le coût des financements a augmenté, on se doit de supporter un effort d'investissement qu'il ne faut pas réduire, et en espérant effectivement que la conjoncture se rétablisse.
Justement, j'aimerais qu'on axe bien évidemment sur cet enjeu majeur. La réhabilitation qui est liée donc aux injonctions faites dans la loi climat et résilience, il va progressivement y avoir donc une interdiction de louer des logements qui ont des étiquettes énergétiques E, F et G.
Pas au même au date, titre, mais voilà.
On sait que la trajectoire c'est 2034.
C'est ça.
Au titre du diagnostic de performance énergétique. Il y aurait beaucoup à dire au niveau du DPE. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez mis en place quelque chose de génial chez vous qui s'appelle le DPR, le diagnostic de performance résiliente. Moi, je trouve ça remarquable. C'est Anne-Sophie Grave, la présidente du directoire, qui l'a annoncé au salon de la rénovation et de la construction, avec le plaisir d'animer. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et j'espère que votre fameux DPR sera suffisamment standardisé pour qu'il soit une méthodologie applicable à l'ensemble. Mais c'est peut-être un appel que je fais à l'ensemble de la profession, bien évidemment. Vous avez élaboré un plan qui permet de résorber le plus rapidement possible un plan, justement, ce type d'action. Vous pouvez nous en parler en quelques mots?
De toute façon, on est déjà très engagé dans la réhabilitation parce que mes équipes font à peu près déjà 3000 réhabilitations par an. Donc c'est déjà colossal. Donc ce que l'on envisage, mais qui n'est pas encore, qui est soumis aux instances, c'est à la fois, si vous voulez, d'augmenter ce nombre, pour pouvoir traiter un plus grand nombre d'ensembles immobiliers, et puis d'augmenter malgré tout le volume unitaire, puisque la première priorité, ça va être de travailler sur l'approvisionnement énergétique des résidences, justement pour changer le tout gaz. Et donc on va devoir faire des diagnostics qui vont être plus poussés et qui vont prendre probablement plus de temps. Donc la première chose qu'on voudrait faire, c'est commencer très vite à travailler sur les prochaines étapes d'interdiction de louer, même si on est très peu concerné.
Quels sont les leviers, Eric, pour justement arriver à le faire ? Quoi ? Construction, réhabilitation, comment ?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire il y a le levier de la réhabilitation.
Voilà.
Voilà, ça c'est... En fait, dans... Un, c'est vraiment le levier de la réhabilitation, ça c'est sûr. Ça fait quand même diminuer fortement, notamment ça décarbone de façon importante. Il y a la question des livraisons et de la production neuve. Hein.
C'est-à-dire qu'on doit acheter, voilà. On doit acheter du bas carbone et on doit produire nous-mêmes, parce que Anne-Sophie Grave a vraiment souhaité redévelopper la maîtrise d'ouvrage interne au groupe. Et là aussi, nous devons produire du bas carbone.
Je trouve ça génial que vous ayez réintégré la maîtrise d'ouvrage en interne. Parce que c'est aussi, pardonnez-moi, connaît un peu le métier, c'est la réintégration de compétences internes.
Oui, c'est sûr.
Et on a vu, Eric, durant ces dernières années, par quoi certains gros bailleurs, des compétences qu'on n'a plus trouvées, oui. Bien évidemment, à l'intérieur. Moi, je trouve ça remarquable. Vous voulez dire un mot, peut-être, là-dessus ?
Non, mais simplement dire que vous avez raison sur le fond. Je pense quand même que chez CDC Habitat, on a quand même développé beaucoup d'expertise et de compétences. Le sujet là, avec la maîtrise d'ouvrage direct qu'on veut renforcer, c'est évidemment de construire une filière quasiment dédiée, quoi. Ça veut dire que mais on a des compétences en interne, mais en effet c'est ce au quoi.
Alors ça me permet, merci Eric, puisque ça me permet de faire cette transition justement concernant la construction neuve. Aude, vous êtes en train de travailler et de réfléchir sur des méthodes de construction qu'on appelle solution bas carbone et abordable. Bas carbone abordable. On va essayer de faire coïncider les deux. En expérimentant, par exemple, de la construction, la production hors-site, est-ce qu'on en parle beaucoup ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors, on sait que la production hors-site, ça favorise la réduction de la logistique urbaine, les nuisances, voilà, ça optimise, mais les coûts ne sont pas neutres.
L'idée, si vous voulez, c'est de profiter de la masse que nous représentons pour générer un effet d'entraînement dans la structuration de ces nouvelles filières, nouveaux matériaux, nouveaux modes constructifs, nouvelles méthodes d'approcher le bâti, puisque maintenant il va falloir raisonner en coût complet, en analyse du cycle de vie, et donc réintégrer complètement l'usage et la gestion d'un bâtiment dans sa conception. Donc il faut qu'on reparte de l'aval pour remonter en amont de la construction du bâtiment. Et donc il nous semble que par la masse que nous représentons, que nous incarnons en tant que donneurs d'ordre, nous pouvons peser sur justement ces évolutions à venir. Et sur ces questions de production hors-site, c'est un bon exemple. Nous nous sommes associés, nous avons répondu conjointement à un appel à manifestation d'intérêt de l'État avec I3F, avec la société du Grand Paris, avec Grand Paris Aménagement, pour essayer de bâtir ensemble des réponses qui pourront peser sur derrière la filière. On est aussi, dans le même temps, en train de travailler sur le BIM. Bon, ben le BIM, par exemple, on travaille avec Séquence pour essayer, là aussi, d'arriver à des solutions qui pourraient se généraliser et susciter des économies pour tous.
Et en plus, le BIM, enfin, moi je suis ravi que vous en parliez, parce que le BIM, c'est une formidable opportunité aussi de lutter contre la perte et les déchets, l'optimisation du mètre carré. Je crois qu'il y a un peu moins de 15% des chantiers nationaux en mode BIM aujourd'hui. Donc c'est vraiment un avenir.
J'ai pas ce chiffre en tête, mais
je pense que c'est un avenir véritablement. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le BIM, c'est le Building Information Management Model, comme on voudra le dire. Il y a aussi l'autre versant du BIM qui s'appelle le BOS, le Building Operating System, qui permet de piloter le bâtiment une fois qu'il a été effectivement livré. On peut dire que c'est le jumeau numérique d'ailleurs du bâtiment. On approche bientôt du terme de cette émission. Je voudrais qu'on parle aussi d'économie circulaire, de méthodes innovantes. On a évoqué la méthode de construction hors site. Je pense que c'est promis un bel avenir par une massification et une industrialisation peut-être des modes constructifs. On l'a évoqué d'ailleurs avec votre présidente il y a une dizaine de jours au salon organisé par Nexity à La Villette, à Aubervilliers. Est-ce que aujourd'hui Eric, avec l'expérience que vous avez, il n'y a plus photo. On ira vraiment sur une économie circulaire, sur de l'innovation extrêmement frugale. Tout le mode de, enfin, ce à quoi nous étions habitués, ce monde-là est déjà définitivement tourné.
Oui, là, vous avez raison. De toute façon,
il y a des obligations réglementaires depuis
janvier 2002 cette année.
On a l'âge d'avoir connu cette époque.
Oui. Aujourd'hui, on a des obligations réglementaires qu'on applique d'ailleurs, et on essaie d'aller même au-delà. J'ai en tête la démolition d'une tour à Villiers-le-Bel où on a utilisé l'économie circulaire à plus de 90% en réinjectant les matériaux qu'on a démoli dans la nouvelle structure. Donc ça veut dire que en fait on a plein d'exemples comme ça. On voit bien que de toute façon aujourd'hui c'est vraiment complètement alors c'est comme tout, ça veut dire ça peut être une obligation et on peut ne pas bien savoir le faire pas être volontaire, etc. Bon, là c'est autre chose. On n'est pas dans cette situation.
Non, mais ce qui est bien, c'est que vous avez fait de cette obligation, et je vous reconnais bien là, une véritable opportunité
changement. C'est une opportunité de changement, parce que ça, au-delà de l'acte en lui-même, ça permet de construire des projets de façon plus globale en intégrant ces dimensions-là complètement. Et du début à la fin, ça veut dire que y compris, on parlait de démolition, on parlait tout à l'heure de construction. Il y a aussi les réhabilitations où pareil. On essaie d'être aussi un acteur qui, je pense à Castiglione à Trappes, avec Massy Renault, qui est un dispositif d'État qui nous a permis d'ailleurs, avec une subvention importante, mais c'est un démonstrateur, de pouvoir justement montrer qu'on peut faire de la réhabilitation plus efficace en industrialisant le procédé, etc. Donc tous ces sujets-là, on est très volontariste et c'est vrai que après ça permet de construire une vraie stratégie d'ensemble, vous voyez, et du coup ensuite de mettre les équipes totalement dans cet objectif-là, parce que ce n'est pas qu'un service qui est concerné, on le disait tout à l'heure, c'est assez transversal. Vous avez bien vu que toute la chaîne est mobilisée. Et pour nous, c'est un enjeu d'accompagnement des collaborateurs aussi.
Et puis, tout le monde peut apprendre. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé à mettre mes équipes en transversalité sur les problématiques de décarbonation. Et vraiment, ceux qui sont sur la construction neuve ont à apprendre de ceux qui font de la réhabilitation et vice-versa. Et c'est intéressant que ceux qui achètent des VFA soient bien conscients de ces sujets-là pour pouvoir négocier un peu mieux avec les promoteurs. Voilà. Donc, c'est un enjeu transversal pour nous, très très fort et très mobilisateur.
La trajectoire de décarbonation, on pourrait la résumer ainsi, et ce sera la conclusion de cette émission, avec une trajectoire dans laquelle on va avoir trois aspects, j'allais dire des aspects urbains, qui sont liés à la pression démographique, on le voit bien. Hein. On a une empreinte foncière qui est de plus en plus maîtrisée. Encore une fois, je reviens sur le ZAN, c'est pas du zéro, on construit pas zéro. Oui. On construit, parce que souvent on dit zéro, on ne construit plus, etc. Non, on construit, mais on construit autrement. Mode constructif, deuxième aspect, des modes constructifs innovants, moins consommateurs, effectivement, d'énergie, et l'expertise, et avec notamment les imprimantes 3D, la construction hors site, permet effectivement d'optimiser. Il faut massifier, parce que bien évidemment, il faut tenir en compte, et ça a un impact d'ailleurs sur l'économie locale. Et enfin, bien évidemment, cette trajectoire urbaine qui est d'améliorer le confort de vie des habitants. Ce sont des projets qui sont très regardés aujourd'hui par l'État, très observés, et vous êtes ce que j'appellerais moi, dans mon langage, je vais faire mon journaliste, des alliés objectifs de cette transformation, bien évidemment. Je vous propose un jeu pour conclure cette interview, cette table ronde extrêmement intéressante. Vous avez vu qu'on ne donne jamais forcément toutes les réponses, parce que c'est toujours un prétexte de se revoir. Oui. Finalement, le meilleur ami de la radio, c'est la frustration, l'envie de nous retrouver sur les plateaux. Je vous propose un jeu spontané. Je vais vous demander à chacun de me donner spontanément un adjectif qui vous viendrait à l'esprit et qui illustrerait notre propos. Quel mot vous viendrait naturellement à l'esprit, Haute de Breuil ?
Alors, pas forcément un objectif, je préférerais un substantif, je dirais ambition.
Ambition. Éric Dubertrand.
C'est vrai que... moi, je dirais plutôt mobilisateur.
Si l'on veut mobiliser, notamment dans notre métier, c'est un vrai sujet, encore faut-il en avoir de l'ambition. Et c'est bien de cette ambition dont on a parlé pendant ces 40 minutes que j'ai eu le plaisir d'animer. Merci Aude Debray.
Merci Sylvain.
Aude Debray, je rappelle, vous êtes président du directoire de Grand Paris Habitat. C'est un vrai plaisir de vous revoir sur le plateau. Je gage, ma chère Aude, que nous nous verrons très vite sur les plateaux. C'est vraiment un plaisir de parler avec des professionnels qui ont une vision globale. Un vrai plaisir également avec vous, Eric Dubertrand, toujours très, très opérationnel et très pertinent dans vos analyses. Vous êtes directeur interrégional pour CDC Habitat en Ile-de-France. Et bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu sur nos antennes.
Merci,
merci également à Enguerrand qui a permis de réaliser cette table ronde avec nos amis ici présents. Merci également aux équipes de Radio Immo, de Radio Territoria et aux équipes de CDC Habitat qui ont permis effectivement de développer ce que j'appellerais moi cette agora digitale qui nous permet voilà, d'échanger nos points de vue. On n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, la vitalité d'une bonne et bonne démocratie, c'est bien évidemment le débat. À bientôt.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec Mille et Une Vie Habitat, Homelior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.